بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاء الإسلام nous avons complété ce soir le 13e juz وما برئ نفسي et donc demain inshallah on commencera le 14e juz le 14e donc sipara et parmi les enseignements qu'on pourrait tirer de ce 13e juz, il y a bien sûr l'énorme histoire de Sourate Yusuf, la plus belle des histoires du Coran. Mais il y a tellement de choses à dire sur la Sourate Yusuf que l'aborder en 10 minutes c'est impossible. Donc il y a juste un verset qu'on avait déjà expliqué il y a quelques années, il y a 2 ans exactement, qu'on aimerait juste rappeler. C'est lorsque Yusuf alayhi salam dit à ses enfants وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. Vous savez, lorsque Yusuf alayhi salam avait dit à ses enfants de retourner vers le palais du roi, et Yusuf alayhi salam Yaqub alayhi salam a dit à ses enfants, n'entrez pas tous par la même porte, n'entrez pas tous en même temps par la même porte. Pourquoi? Les commentateurs du Coran disent que les enfants de Yaqub alayhi salam étaient tous très beaux, des jeunes hommes très beaux, et donc pour éviter le mauvais regard, ce qu'on appelle le ayn, pour éviter le mauvais regard, Yaqub alayhi salam a conseillé à ses fils d'entrer par différentes portes, pour pas qu'ils attirent trop l'attention des gens et que les gens restent admiratifs. Parce que quand quelqu'un est bien fait, il y a des personnes qui vous regardent qui peuvent dire « Mashallah », c'est tant mieux, c'est l'idéal. Il y a des personnes qui vous regardent et il est content pour vous. Vous avez quelque chose de bien, tant mieux, et il trace son chemin. Et puis il y a des personnes qui vous regardent avec un regard envieux, un regard rempli de jalousie, limite de la méchanceté. Et ce regard-là peut être lourd en conséquence. Et une personne peut tomber malade, peut avoir des conséquences sur les bienfaits qu'il a par rapport à un regard méchant et jaloux. Ce n'est pas de la superstition. Al-Ain Haq, c'est une réalité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les remèdes, hein, qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un était atteint de haine, etc. Mais c'est pas ça le but. L'objectif, c'est de rappeler ce qu'on avait dit en 2010, c'est que quand quelqu'un est bien fait, il faut pas faire étalage de bienfaits. Si quelqu'un vous accorde des choses, alhamdulillah, quelqu'un est aisé, il a des bienfaits, des ni'amas, il faut pas faire étalage devant tout le monde pour se protéger. Et là, c'est une petite parenthèse, toute petite. Parfois, il y a des jeunes qui sont tellement heureux, ils se sont mariés, ils sont contents, et ils sont, depuis le plus jeune âge, addicts aux réseaux sociaux. Alors, la première chose qu'ils font, le soir de leur mariage, c'est de prendre la photo de leur mariage et de mettre en photo de profil. Monsieur, madame, à côté, sur la table de mariée, ou en train de s'embrasser, ou alors avec un gros cœur. Mais ça, c'est la plus belle façon de s'attirer les regards envieux et jaloux. Et puis beaucoup de gens se plaignent, oui, ben notre couple ça va pas, il y a des gens qui nous envient, il y a des gens qui sont jaloux, il y a les mauvais regards, comme il dit, on crée le ras-le-cœur. Je cherche le mot, on crée le dit le ras-le-cœur. D'accord? Il a dit, na ras-le-cœur de mon, etc. Mon frère, si tu exposes tes bienfaits, il y a peut-être quelqu'un qui, Allah Akbar, il a 5, 26, 28, 29 ans, il n'arrive pas à se marier. Toi, tu as 22 ans, tu t'es marié, tu as des bienfaits, Allah t'a accordé ce bienfait, Ushkurullah, remercie Allah, vis heureux avec le bienfait qu'il t'a accordé, mais ne l'expose pas de manière ostentatoire. Il y a un juste milieu. Ça ne veut pas dire que ne sors jamais, que ta femme ne va pas faire les courses avec ta femme. Non, on sort tout, on vit normalement sans devenir paranoïaque non plus. Hein. Sans devenir parano que si quelqu'un me voit, que je souris, donc il va me... Non, n'importe quoi. Mais ne rien faire d'ostentatoire. Essayez de préserver les bienfaits qu'Allah Ta'ala nous a accordés. Donc ça, c'était une petite parenthèse. On n'approfondit pas parce qu'on avait déjà abordé ce verset en 2010 et l'objectif, c'est de passer en revue un maximum de versets et non pas les répéter. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un verset de la sourate Ra'd. Un verset qui parle de l'unicité d'Allah dans la création. La grandeur d'Allah dans la création. Et dans le dogme islamique de l'Aqida, on appelle ça le Tawhid Rububiyya. C'est-à-dire reconnaître la grandeur d'Allah dans ce qu'il a créé. À travers sa création. Méditer sur la grandeur de la création d'Allah Azza wa Jal, et cela nous emmène directement vers l'autre catégorie d'unicité de Tawhid qui s'appelle l'unicité d'Allah dans le culte Tawhid Uluhiyya. Quand on a intégré, on a réalisé qu'Allah c'est le plus grand, c'est Allah le créateur, c'est Allah qui a tout fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À poser notre front sur le sol et adorer ce Seigneur, ce Dieu. Si on reconnaît que c'est Allah le créateur, pourquoi vouer un culte à quelqu'un d'autre? Et c'était l'erreur des mushrikines de Quraysh, des idolâtres de Quraysh. Voilà, in saltahum man khalaq as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Ils ne disent pas la yaquluna al-'azba al-lat wal-'uzza wa manat. Non, ils disent Allah. Ils adoraient Manat, Uzza, Lat, tous ces idoles, mais ils savaient que c'est Allah qui a tout créé. Ça, c'est l'incohérence des polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils reconnaissent lui, c'est Allah, dans la création, mais ils n'ont pas compris que si on reconnaît ça, ben on adore qu'Allah. Donc, à travers différents versets, Allah Ta'ala nous donne des signes que c'est Allah le Créateur, c'est Allah qui a tout fait. Et de la sourate Ra'd, Allah Akbar, c'est rempli de signes de Rububiyya. Hein, il y a un verset magnifique que notre frère Yassine a lu brillamment. Hein, c'est Yusabbihu Ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifati. C'est des versets qui, Allah Akbar, font bouger les cœurs. Et j'invite chaque personne à lire le Coran en arabe et le lire en français, de méditer sur la beauté des versets, la grandeur du message qu'Allah nous a accordé. Il y avait une citation, à chaque fois, je dis que je vais l'écrire. J'oublie. Hein, il y a un tabi'in, je sais pas si c'est un tabi'in ou un tabi'in, un grand savant qui dit que à chaque fois que je lis le Coran, je reste stupéfait. Je reste stupéfait de la beauté des versets et de la grandeur, de la profondeur du sens des versets. Et je me pose la question, comment est-ce que un hafiz du Coran peut dormir le soir? Elle dit, comment est-ce qu'un hafiz peut trouver le sommeil avec tout ce qu'il y a dans sa tête, je veux dire dans son cœur, tout ce qu'il a mémorisé, de versets extraordinaires au contenu exceptionnel. Il a dit que je jure par Allah, s'il savait vraiment ce que contenait le Coran, il ne dormirait pas. Farhan bima ruziqu, tellement il serait heureux de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, ce cadeau, ce bienfait. Donc le Coran, mes chers frères, ce n'est pas tout que de le lire avec perfection, le tajwid, le makharj, le harouf, il faut aller plus profond. Ce Coran a été révélé pour être lu, mémorisé, écouté, mais surtout pour méditer sur le sens et de mettre en pratique. Dites-moi, comment est-ce qu'on va mettre en pratique un verset dont on ne connaît pas le sens ? À partir du moment où on connaît le sens, on peut décrypter, on voit le tafsir, on peut méditer, on comprend et on fait amal. C'était comme ça, les huffaz à l'époque des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Avec tout ça, on n'a pas démarré le verset encore. On peut rattraper puisqu'on n'a pas fait samedi, dimanche, on peut faire un petit choyé en plus, jazakumullah khair. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad, wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar, 'alimul ghaib wa shahada al-kabir al-muta'al. Tu vas ça la dit, Allah sait, en ce sens, hein, Allah sait ce qu'il y a, ce que porte chaque femelle. Quand une dame prend un bébé, attend un enfant, Allah Ta'ala sait. Allah Ta'ala sait ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne. Wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad, et combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar, et toute chose a auprès de lui sa mesure. Parce que quoi? Parce que Allah c'est le 'alimul ghaib, c'est celui qui connaît l'invisible, wa shahada, et qui connaît ce qui est apparent aussi. Allah connaît ce qui est invisible, ce qui est apparent. Allah c'est al-kabir al-muta'al, le plus grand. Allah est le sublime. Ce verset prouve qu'Allah Azza wa Jal a une connaissance infinie. Allah, créateur des cieux et de la terre, c'est tout ce qu'il y a de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ce qui est visible à l'œil nu, ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Ce qui, à notre époque, nécessite des appareils, infrarouges, scanners, IRM ou alors échographie. Allah Ta'ala le sait mieux que quiconque. Et Allah Ta'ala sait à chaque fois qu'une dame, une maman attend un enfant, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans le ventre. Alors il y a des gens qui disent que oui, ce verset n'est plus d'actualité. Na'oudhu billah. Dit parce qu'avec une échographie, on peut savoir si c'est un garçon ou c'est une fille. Ces gens-là, ils n'ont pas creusé le verset comme il faut. Ils n'ont pas compris le sens du verset. Quand on dit que Allah il sait ce qu'il y a dans le ventre d'une maman, Allah il sait dès le début. C'est pas quand demander à un gynéco à deux semaines de gestation, deux semaines de grossesse, un petit garçon, une petite fille, du monsieur, attendez, c'est pas avant 4 mois qu'on va savoir. C'est pas 2 semaines, c'est même pas un caillot de sang encore. Mais Allah Ta'ala, il le sait déjà. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur. Allah, il sait ce qu'il y a dans ce ventre, il sait ce sera une petite fille ou si sera un garçon. Et plus que ça, shaqiyun aw sa'id, est-ce que quand cet embryon ou ce morceau de chair, de caillot deviendra un jour un enfant, un être humain, qu'elle deviendra adulte, est-ce que ce sera quelqu'un de heureux ou quelqu'un de malheureux? Tawilul umri aw qasir, Allah Ta'ala sait déjà quand il est encore de cet état, est-ce que c'est quelqu'un qui va vivre longtemps ou quelqu'un qui ne va pas vivre longtemps. Demandez à un gynéco s'il connaît, ça veut dire monsieur, je suis gynéco, je ne suis pas marabout. J'ai fait des études de gynécologie. Je n'ai pas de boule de cristal. J'ai un diplôme de médecin. Et ça rejoint le verset lorsqu'Allah Ta'ala dit « Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi » وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. Allah il sait tout, Allah il sait même quand vous étiez encore un embryon dans le ventre de votre maman. Ça c'est le ilm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Incomparable avec ce que les scientifiques essaient de faire croire qu'ils maîtrisent, ils savent tout. Combien de cas de médecins gynéco qui disent à des mamans, attention, votre enfant va naître avec tel problème de santé. On connaît le cas d'une personne précise, quelqu'un que je connais, docteur, il avait dit que votre enfant va naître trisomique, va naître avec tel problème de santé très grave. À la naissance, l'enfant était tout à fait normal. Et si on écoutait la personne, la maman aurait pu avoir ce réflexe, na'oudou billah, de faire une interruption de grossesse. Qui c'est qui connaît ce qui a fait l'arham? Allah seul le sait. Même si des médecins avec plein d'appareils peuvent vous donner des photos en 3D, plein de choses, mais ils peuvent avoir une vision de l'extérieur. Mais Allah seul sait ce qu'il y a vraiment, parce que c'est Allah qui est le créateur. Et au-delà même de l'aspect physique de cet embryon, Allah il connaît son taqdir, son destin, parce que c'est Allah qui a créé cette personne et qui a prédestiné tout ce qui va l'arriver. Et dans un autre verset, يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. Dans ce verset, Allah Ta'ala explique aussi les différentes étapes. Il y a différentes étapes de la création de l'embryon dans le ventre de la maman. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala explique ces étapes. Et ce verset-là, on a l'habitude de le lire aux lycéens. Aux lycéens de, bien sûr, les lycées français, les lycées laïcs, hein, pour quand on explique la religion, l'islam, on explique un peu c'est quoi le Coran, et on essaie juste de les interpeller sur un verset à connotation scientifique, et de les rappeler que ce verset a été révélé il y a 1500 années dans le désert d'Arabie, où il n'y avait ni médecin, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien du tout. Il y avait du sable, il y avait des dattes, des chameaux. Et avec ça, on ne va pas très loin dans la science. Donc ce qui a été révélé il y a 1500 années, c'est du miracle 100%. Ça vient de Dieu. Et celui qui, après ça, se dit qu'il n'y a pas de Dieu, nous descendons du singe, peut-être son papa, oui, mais nous, non. Nous descendons du singe et que tout ce qui existe sur la terre, c'est un hasard. C'est la fusion de gaz qui a donné lieu à naissance de planètes. Et puis, tralali, tralala, la vie microbienne, la vie, etc., qui transforme machin, le poisson qui a eu des pattes, le poisson qui a commencé à marcher, qui est devenu un singe, et est devenu mon papa, et est devenu moi. Ça, c'est leur thèse. La ilaha illallah. Mon frère, comment, dans ce cas, peux-tu m'expliquer qu'il y a 1500 années, Allah Ta'ala dit le Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Allah Ta'ala explique comment est-ce qu'il crée l'être humain. Et qu'au départ, c'est une goutte de sperme. Ensuite, en ce sens, je n'ai pas la traduction exacte, mais ensuite, ça devient comme un morceau de chair, de caillou, comme un caillou. Puis ensuite, le caillou, le petit morceau de sang devient un caillou devant quelque chose de collant. Et puis, peu à peu, il prend forme et Allah Ta'ala, il commence à dire que Allah Ta'ala parle de la création des os. فَكَسَوْنَا كَسَا c'est vêtir. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَا. Ensuite, nous mettons de la chair autour de cet os. ثُمَّ أَنْشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Allah Ta'ala explique comment il crée l'être humain. Mes chers frères, il y a 1500 années, qui pouvait savoir comment un embryon prend naissance? Quelles sont les étapes de la création du fœtus jusqu'à ce qu'il devienne un être vivant avec un cœur qui commence à battre, l'âme qui est inspirée jusqu'à ce qu'il devienne un insan, un être vivant, et qu'Allah Ta'ala lui accorde la vie? Personne ne pouvait savoir. Ça fait partie des versets miraculeux qu'on lit également pour les touristes. Quand ils viennent visiter les mosquées, ça reste la da'wa, qu'on explique tout ce qu'il y a autour, et puis on dit que voilà quelques versets du Coran, et parmi ces versets, ce ayah qui interpelle n'importe quelle personne. N'importe quelle personne intelligente et sensée qui est à la recherche de la vérité. Hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. Dit la création de chaque être humain se fait en espace de 40 jours. Ensuite, le professeur Hassan explique à peu près les mêmes étapes et à la fin dit ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات. À la fin de ces étapes, Allah Ta'ala envoie un ange et il y a quatre choses qui sont ordonnées. yaktubu rizqa, concernant sa subsistance, umru, le nombre d'années qu'il va vivre, amalu, les actions qu'il va faire, wa shaqiyun aw sa'id, est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. Et dans un autre hadith, il dit que l'ange demande à Allah, adhakarun am untha, oh Allah, est-ce que ce fœtus, qu'est-ce que tu m'ordonnes, oh Allah, ce sera un garçon ou une fille, ashaqiyun am sa'id, ce qu'on avait dit, famal rizq, quelle sera sa subsistance, famal ajal, ya Allah, quelle sera son espérance, quelle sera sa vie, et Allah ta'ala, fayaqulullahu wa yaktubul malak, Allah donne les ordres et l'ange écrit tout ce qu'Allah ta'ala a décidé. Et le prophète a dit que parmi les cinq choses qu'Allah seul sait, il y a cinq choses qui sont dans le ilm d'Allah Azza wa Jal, aucune créature ne sait, même pas un prophète, même pas un ange. La ya'lamu ma fi ghadan illa Allah. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Et quand quelqu'un vous dit que avec sa boule de cristal ou avec ce qu'il tout ce ben histoire, qu'est-ce qui va se passer demain? Ça c'est de la révélation satanique. C'est les shayatin qui montent aux cieux, qui écoutent, qui volent les nouvelles que les anges se transmettent volontairement par la volonté d'Allah et qui sont chassés des cieux. Ce qui fait que le marabout, le sorcier, le devin, il vient vous dire que voilà, il va vous arriver ça, il va vous arriver telle chose. C'est pas qu'il connaît l'invisible, c'est pas qu'il connaît ce qui va se passer demain. C'est qu'il a eu les nouvelles du ciel. Les nouvelles volées par les shayatin qui sont chassées par les anges. Mais Allah laisse les shayatin voler quelques nouvelles pour éprouver les gens. Qui va suivre ces personnes qui disent des paroles qu'ils ont volées, des paroles qui viennent des plus grands menteurs des shayatines, et qui va savoir que le prophète a dit que n'allez pas voir ces gens-là. Si vous y allez, vous êtes faqad kafar. Kafar. Vous avez fait le kouf, vous avez renié bima unzir ala Muhammad. Vous avez refusé la révélation. Alors quelqu'un il fait ça, et quand il meurt en ayant kafara bima unzir ala Muhammad. Que la personne réalise bien. Quelqu'un va voir ce genre de personne et qui croit, c'est quelqu'un qui a refusé la révélation. Refusé tout. Quand il meurt dans cette situation qu'Allah nous protège et nous pardonne. Également, le prophète m'a dit que parmi les choses qu'Allah seul le sait, le verset d'aujourd'hui, وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ, ce qu'il y a dans les matrices, et le verset qu'on n'a pas tout détaillé, combien cette grossesse va durer. وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ, est-ce que c'est une grossesse qui aura moins de jours, moins de mois, ou alors ça va dépasser. وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ وَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ, Allah seul sait quand la pluie aussi va tomber. C'est pas le météorologue, c'est pas en fonction des nuages, c'est Allah seul qui sait, c'est Allah seul qui l'ordonne, et personne ne sait بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, personne ne sait où il va mourir. Personne ne peut programmer, bon je vais là-bas, je vais mourir là-bas. Non. وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ, et bien sûr, personne ne sait quand aura lieu la fin du monde. Allah seul le sait. L'ange Jibril alayhi salam était venu voir le prophète salam poser des questions. Hadith très connu. À la fin, il dit que, dis-moi ce que tu sais à propos de la fin du monde. Le prophète salam dit que, celui qui demande ne connaît pas mieux que celui à qui on a posé la question. مَسَّائِلُ عَنْهُ أَعْلَمْ أَعْلَمْ مِنَ السَّائِلِ مَلْ مَسْئُولُ جَزَاكَ اللَّهُ مَلْ مَسْئُولُ أَعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ, c'est-à-dire celui qui pose la question ne connaît pas plus que celui à qui a demandé. Et qui c'est qu'il y avait en face? L'ange Jibril. Et l'autre côté, An-Nabi sans ça. Meilleur des anges, meilleur des hommes. Personne ne sait. Allah seul sait quand aura lieu la fin du monde. Donc ces cinq choses-là, c'est dans la science de l'ilm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Abbas, il a une autre interprétation également de وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ, la traduction qu'on a dit, c'est et combien la période de gestation de la matrice est écourtée. Quand c'est une grossesse, qui ne va pas faire 9 mois, qui va faire moins. Et selon Ibn Abbas, وَمَا تَغِيضُ, c'est يَعْنِي أَسَّقْتُ, si cette grossesse ne va pas terminer, si il y aura sarte, si il y aura, on va dire une fausse couche, que l'enfant va descendre et qu'il n'y aura pas, ne va pas compléter. Et donc tout ça, c'est uniquement dans le ilm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on terminera avec une citation magnifique de Makhoul. Il dit, c'est un des mufassirs, il dit, regardez comment Allah ta'ala, c'est lui le raziq, c'est lui le pourvoyant, c'est lui qui donne la subsistance. Il dit que quand ce fœtus est dans le ventre de la maman, ce fœtus n'a pas à rechercher sa subsistance, sa nourriture, n'a pas à pleurer, voilà, parce que sa subsistance lui vient directement par le sang de sa mère. Ça, ce livre a été écrit il y a 7-8 siècles, par le sang de sa mère, maintenant on appelle ça par le placenta, d'accord. Il dit quand cet enfant naît, là aussi il n'a pas il n'a pas à aller chercher sa subsistance. Allah Ta'ala lui accorde la subsistance par sa maman qui l'allaite, qui lui donne le lait. Ensuite il devient un enfant autonome et il peut prendre la nourriture et manger. Il dit donc le raziq c'est qui? C'est Allah. C'est Allah qui donne la subsistance. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ عِنْدَهُ بِمِقْدَارُ Comme on a dit tout à l'heure, et toute chose a auprès de lui sa mesure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, oui, il y avait ce hadith ici à propos de tout. Hein, il y a une mesure, Allah Ta'ala a tout prédestiné. Une fois, il y a ce récit. On va terminer avec ça, ça va être plus rapide. Ce récit, il y avait une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait envoyé quelqu'un voir son père pour l'annoncer que l'enfant, il avait un enfant qui était en train de mourir. Et elle a demandé à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne et assiste au dernier jour, au dernier soupir de l'enfant. أن ابنًا لها في الموت وأنها تحب أن يحضره. فبعث إليه يقول. Parce qu'il a envoyé quelqu'un apporter ce message. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. Sache que tous, Allah Ta'ala, إن لله ما أخذ. Ce qui repart, ce qui meurt, ça appartient à Allah. وَلَهُ مَا أَعْطَى Et ce qu'Allah donne, ça vient de lui également. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى Et tout ce qu'Allah a créé, Allah a créé pour un moment, pour un laps de temps limité. Et ensuite, c'était pour rassurer. C'était pour apaiser le cœur de sa fille. Que n'oublie pas, si Allah t'a accordé cet enfant, Allah Ta'ala, quand il a donné naissance, il a donné la vie à cet enfant, le rizq était déjà prédestiné, le umr, l'âge aussi était déjà prédestiné par Allah. C'est Allah qui t'a donné, c'est Allah qui reprend. Ne sois pas triste, la personne ne doit pas s'affliger. Si on perd un enfant, si l'enfant a vécu 2 mois, si l'enfant a vécu 2 ans, c'est qu'Allah avait écrit qu'il va vivre tant nombre d'années. Ni un jour de plus, ni un jour de moins. Aucun médecin, aucun chirurgien, aucun généticien n'aurait pu prolonger d'une seconde la vie fixée par Allah, ni le retirer d'une seconde. Et là, le prophète, après avoir rassuré sa fille par ses paroles, dit « Famuruha, faltasbir wal tahtasib » Qu'elle fasse preuve de patience et qu'elle s'en remette à Allah et qu'elle soit bien consciente que pour cette épreuve, Allah Ta'ala va le rétribuer. Et Allah, il est le alim al-ghaybi wa shahada al-kabir al-muta'al. Et Allah, il sait l'invisible, Allah, c'est le plus grand, Allah, c'est le sublime, l'élevé. Qu'Allah t'en donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de méditer sur ce verset et sur tous les versets qui nous montrent la grandeur, l'unicité d'Allah. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Nous lui devons obéissance et surtout ne jamais le désobéir. Et qu'Allah nous permette de propager ces paroles également à ceux qui n'ont pas la foi, à ceux qui parfois recherchent la vérité, mais ne savent pas où trouver la vérité. La vérité, mes chers frères, c'est dans les paroles d'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.